à bâton rompu. À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Éric Pilet, bonjour.
Bonjour.
Bonjour et merci d'être venu pour ce quatrième entretien. Je rappelle, Éric Pilet, que vous avez eu une carrière de DRH dans des grands groupes industriels, dont le groupe Airbus, et que vous avez fini votre carrière, comme vous nous l'expliquiez la semaine dernière, comme directeur de l'Arche à Toulouse pendant 10 ans. Donc vous êtes arrêté en 2020, je crois, que vous avez fondé, mais vous étiez depuis vos études à HEC très impliqué déjà dans l'Arche tout au long de votre vie. Vous m'aviez dit que c'était une sorte de fil rouge pour vous, et vous avez eu l'opportunité de créer l'Arche à Toulouse, et évidemment, vous en avez ensuite pris la direction dans la dernière partie de votre carrière. Donc on a déjà parlé de tout ça. Je voudrais qu'on parle d'un thème et qui est un peu conjoint avec celui-là, parce qu'il y a une cohérence dans vos engagements, qui est celui de l'inclusion à travers deux structures sur lesquelles vous êtes impliqué en ce moment. Quand je dis en ce moment, c'est depuis quelques années. C'est le projet des Cafés Joyeux à Toulouse, qui est un projet en cours de gestation. Et puis un deuxième projet, peut-être un peu moins connu de nos auditeurs, qui est celui de créer un habitat inclusif au centre de Toulouse. Alors tout d'abord, les Cafés Joyeux, où est-ce qu'on en est précisément de ce projet de Café Joyeux, pour peut-être rappeler pour certains auditeurs oui. ce que c'est, oui. et ensuite nous dire où en est le dossier, vous qui suivez ça de près.
Alors, les Cafés Joyeux, c'est une initiative formidable d'un couple, là aussi d'ailleurs, les Bucailles, qui ont décidé, très sensibles au monde du handicap, ont décidé de... interpellé par une personne avec un handicap qui s'appelle Théo, qui disait, parce que le gars, enfin, le gars Bucailles, il a un bateau en Bretagne, d'ailleurs c'est tout près de chez, c'est dans le même coin que moi, et avec lequel qu'il a spécialisé pour faire transporter des personnes avec handicap pour la journée. Enfin, quand je dis transporter, c'est ludique, c'est une très belle initiative qui existe depuis une vingtaine d'années. Et il y a un jeune trisomique qui lui dit, Yann, donc qui prend du plaisir à la journée en disant, mais tu sais Yann, moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir du boulot. C'est comme ça que Yann Bucailles, en tout cas, raconte la genèse des Cafés Joyeux, que cette phrase de Théo les a mis en route avec son épouse et puis d'autres bien sûr, pour créer des structures économiques totalement, sans soutien de pouvoir public, donc ne rentrant pas dans une des cases du secteur médico-social, et permettant de donner du travail à des personnes avec un handicap mental qui, il faut le savoir, enfin je crois que c'est connu, sont totalement absentes du milieu ordinaire. C'est-à-dire que je crois que sur 100 personnes adultes handicapées mentales, une a aujourd'hui du travail en milieu ordinaire. Alors ça ne veut pas dire que les 99 autres ont vocation à y être, parce que certains ne sont tout à fait incapables, mais ce chiffre de 1% est extrêmement faible.
Oui, oui.
Et donc les Cafés Joyeux sont nés sur cette idée de créer des lieux très conviviaux. On sait que la restauration, on a cette expérience avec nous à Blagnac, avec notre restaurant, que la restauration, et il y a plein d'autres expériences autour de la restauration avec des personnes handicapées, sont des lieux conviviaux où les talents des personnes avec un handicap au service, dans l'accueil, dans la chaleur, dans l'humour, peuvent être vraiment mis à profit. Donc voilà, donc le projet s'est lancé comme ça, d'abord ouvert à Rennes, il y a 5-6 ans, et maintenant, explose de partout, tout le monde veut son Café Joyeux dans sa ville. Et il y en a aujourd'hui, je crois, un peu plus d'une dizaine d'ouvertes, et je crois qu'il y en a une quinzaine qui sont en cours d'ouverture, comme Toulouse. Donc avec Toulouse, un groupe de... Moi, j'étais appelé par un ami qui m'a dit, est-ce que tu voudrais faire partie du groupe de bénévoles qui prépare le terrain? Et donc j'ai dit oui avec plaisir, parce que encore une fois je trouve cette initiative formidable, et donc on a ça fait 2 ans lancé le projet, récolté de l'argent notamment auprès des entreprises qui ont été très sensibles, et beaucoup d'entreprises PME ou plus grands groupes ont été intéressés par ce projet, et donc nous avons, on va dire, réuni l'argent qui convient pour que les Cafés Joyeux, qui est encore une fois qui est une entreprise à but non lucratif, mais une entreprise quand même, puisse nous aider à acheter un fonds de commerce qui donc a été choisi maintenant. Oui. Mais bon, on va dire les travaux à faire, le permis de construire, etc., mais du temps. Mais on espère que d'ici fin 2024, ce qui est un peu trop long pour nous, on piaffe un peu, mais c'est comme ça, c'est la vie.
J'avais retenu de Mme Jandel, qui, je crois, s'en occupe, qu'elle espérait ouvrir au printemps 2024.
Oui, c'est ça. Vous nous dites
que ça sera sans doute
pas
prêt.
Ça fait partie des aléas. Mais en tout cas, ça ouvrira, ça c'est la bonne nouvelle. Et donc, ce Café Joyeux, qui sera situé en hypercentre, emploiera une dizaine d'équipiers, donc de personnes avec un handicap mental, encadrés, accompagnés par deux ou trois salariés. Et ça sera donc un lieu, je pense, qui comptera beaucoup dans la vie toulousaine, parce qu'on s'y rendra avec plaisir. Parce que c'est vrai que pour être allé, moi, dans des cafés joués existants, on trouve une patte, quelque chose d'important. Mais surtout, le projet permet à des personnes avec un handicap mental d'acquérir de vraies compétences, une vraie profession. Au niveau national, ils ont créé un CFA où ils développent et forment des personnes au métier de la restauration. Donc tout ça est extrêmement intéressant.
Bon, eh bien écoutez, on va croiser les doigts pour que les planètes s'alignent et que les petits blocages administratifs qu'on peut avoir à droite ou à gauche s'estompent.
On fait un appel à la mairie, à ceux qui donnent les OK au permis de construire.
Bon, écoutez, que le ciel nous entende.
Mais ils sont plutôt ouverts là-dessus.
Bon, je crois que c'est le projet, si ça c'est toujours conforme à ce que j'avais entendu dire, serait Place des Carmes.
Oui.
C'est bien ça. Donc, on serait en plein cœur de la ville, ce qui est pas négligeable, évidemment. Bien, mais je voudrais qu'on parle aussi de votre deuxième projet, qui est plus original, qui est un projet d'habitat inclusif pour, là aussi, des personnes en situation de handicap, de précarité. Donc, on connaît des modèles d'habitat inclusif, par exemple les maisons Lazare, qui sont bien connues à Toulouse. Quelle est la spécificité de votre projet? Comment ça se passe? Où est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Alors, c'est un projet qui, là aussi, se situe dans un immeuble. Donc, je fais partie d'une association propriétaire de cet immeuble. On a mené tout un projet immobilier permettant. Donc, le diocèse de Toulouse est partie prenante.
C'est un immeuble qui appartient au diocèse?
Qui appartient à l'association dont j'étais président, mais j'ai passé la main, et au diocèse. Mais c'est évident que le diocèse est très, très partie prenante, puisque cet immeuble logera l'équipe du sanctuaire Saint-Jérôme. Donc ça sera un presbytère et une salle de réunion. Un projet pastoral.
C'est la paroisse de Saint-Jérôme.
C'est ça. Et qui n'est pas une paroisse, qui est un sanctuaire. J'ai appris ça.
Vous avez raison de me corriger.
J'ai fait l'erreur plusieurs fois. Et puis, un projet pastoral du diocèse, une maison des familles. Et peut-être que quand ça sera lancé, ça sera l'occasion peut-être de la découvrir avec Radio Présence. Un certain nombre pour autofinancer, ou en tout cas pour financer ce projet, qui est un gros projet, puisqu'il y a 1800 mètres carrés, le projet donc a créé une vingtaine d'appartements, du T1 au T3, qui sont alloués, puisque le projet, les travaux devraient être finis fin décembre, qui seront alloués. Et dans ce projet, j'ai proposé, et ça a été accepté tout à fait avec enthousiasme, la création d'un habitat partagé dans une partie de cet immeuble, où il y aurait 6 T2 proposés à notamment 4 personnes avec un handicap et 2 personnes valides. Pourquoi pas une personne âgée et un jeune pro, de façon à ce qu'il y ait de l'intergénérationnel, de façon à créer un lieu. Il y a un appartement qui ne sera pas loué parce qu'il servira de salle commune pour que justement ces 6 personnes ou plus puissent vivre ensemble et puissent faire des choses ensemble parce que chacun est chez soi, donc
Ce sont des appartements entièrement autonomes, il n'y a pas de cuisine commune.
Dans la salle commune, il y a une cuisine, mais chacun est chez soi. L'idée, j'aime bien cette expression, de créer et de développer des relations de voisinage actives, c'est-à-dire de se porter attention les uns aux autres. Et notamment, on sait très bien que quand on parle d'inclusion, parfois, c'est vu comme le nec plus ultra pour une personne handicapée d'avoir son appartement et on dit « Ah, il est autonome ». Oui, sauf que s'il est autonome tout seul dans un HLM ou dans un immeuble, on sait très bien que les relations sociales peuvent être très compliquées, ou inexistantes. Ouais. Et donc, cette autonomie se traduire par beaucoup d'isolement, beaucoup de solitude. Et finalement, ce n'est pas nécessairement une solution.
De tristesse.
Les initiatives de ce type, il y en a d'autres, sur Toulouse, et ça se développe beaucoup en France, c'est justement de créer des petites structures, des petits lieux où... On va...
De mixité
d'abord, et où, encore une fois, on va se porter attention les uns aux autres. On n'est pas seul. Et donc, par exemple, parmi les règles qu'on peut imaginer, c'est on dîne une fois par semaine ensemble. Quand on va au cinéma, et quand on discute pendant ce dîner, on dit « Ah, ce week-end, je vais au cinéma, qui veut venir avec moi ?» Et puis, si on voit qu'il y en a un qui est un peu en difficulté, ou qui est en souffrance, ou qui parle jamais, etc., peut-être aller le voir. Donc, c'est ça l'idée de cet habitat inclusif. Et nous sommes en phase de recrutement. Des locataires, puisque c'est un locataire, donc il y aura
le recrutement des locataires handicapés et des autres aussi.
On a quelques candidats, mais on va finaliser. On souhaite finaliser le recrutement de ce projet pour on va dire mi-décembre, parce que les appartements seront disponibles début janvier.
Ah oui, donc c'est un projet là qui est...
C'est très actuel.
C'est très actuel, c'est parti, le coup est parti début janvier.
Il faut
janvier.
Des personnes avec un handicap qui soient assez autonomes, parce que ce projet n'a pas pour objectif de soutenir, on va dire, dans les actes de tous les jours, les personnes. C'est-à-dire que chacun devra avoir les soutiens dont il a besoin.
C'est plutôt handicap mental ou plutôt handicap physique?
Moi, de par mon expérience, je suis plutôt pour handicap mental, parce que ça crée... Enfin, voilà. Ouais. Mais il y a un appartement PMR. Ça serait plutôt du handicap intellectuel.
Il y a un ascenseur, oui.
Et puis c'est des très beaux appartements.
Très beaux appartements en plein centre-ville, mais ça va sûrement attirer du monde.
Peut-être.
Et puis cette idée de créer une espèce de petite communauté de vie dans un immeuble comme ça au cœur de la ville, c'est une très très belle idée. Éric Pilet, merci beaucoup pour ce témoignage.
Merci.
Et belle réussite à vous et à votre association pour le lancement de ces habitats partagés, de ces habitats inclusifs dans le centre de Toulouse. Merci.
Merci.